Alléluia, ça c'est notre chant ce matin de Pâques, que Dieu soit béni, amen. Je vais vous asseoir, merci les musiciens, que Dieu vous bénisse. Tout le monde va bien?
Oui.
C'est bien, moi aussi. Nous allons faire une lecture dans Matthieu chapitre 28, verset 1 s'il vous plaît. Seigneur, veuille bénir cette parole de ce matin et réjouir nos cœurs. Nous attendons ton retour et nous nous réjouissons, Seigneur, parce que tu es ressuscité, nous le croyons.
Amen.
Tu nous l'as prouvé tant de fois. Merci, Jésus. Donc, je lis. Après le Shabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds, se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront ». Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux prêtres, aux chefs des prêtres, tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. « Dites que ses disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui, 2017. C'est vrai? C'est comme ça. Et nous? Eh bien, nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité. Amen.
Amen.
Parce que nous avons lu le témoignage des apôtres, mais aussi parce que le Saint-Esprit témoigne dans nos cœurs que c'est la vérité. Nous ne croyons pas les mensonges des prêtres et des chefs des prêtres juifs, et nous ne croyons pas non plus les imams musulmans, ce sont des menteurs. Ils n'ont rien vu et ils mentent, ils racontent des fables, et nous ne les croyons pas. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité. Amen.
Amen.
Il nous l'a prouvé. Il est vivant aujourd'hui, nous le savons. La résurrection de Jésus, c'est la base même de notre foi. La résurrection de Jésus, c'est l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. Avec Paul, nous nous exclamons, et je vais vous lire qu'est-ce que Paul disait, c'est très clair. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 1, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. » Donc ce que Paul a annoncé, c'est la vérité, nous l'avons reçue, mais si nous apostasions, si nous ne croyons plus ce que nous avons entendu, nous sommes des apostats et notre foi, elle existe, mais elle est inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, c'est-à-dire conformément à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire aux Écritures dont se servaient les grands prêtres juifs et leurs conseils, n'est-ce pas, c'était dans ces Écritures-là qu'il était dit que Jésus-Christ mourrait pour nos péchés, hein, conformément donc aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Vous voyez, ces grands chefs prêtres et ces anciens ne connaissaient pas les Écritures, ou alors ils les interprétaient, ils les maquillaient, ils ne voulaient pas y croire, parce que ce qu'ils voulaient, c'est être toujours les chefs, ceux qui possédaient le temple, ceux qui pouvaient y faire ce qu'ils voulaient, et ils voulaient surtout pas de ce Jésus troublion qui venait, n'est-ce pas, les chatouiller dans le mauvais sens du poil, parce que c'est ce que Jésus a fait toute sa vie. Ensuite, il est apparu à Cephas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants aujourd'hui et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ça, c'est donc Paul qui dit ça. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Voilà. Bien. Et sa grâce, et moi, lui, il sait qui il est, hein. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Et Paul, il est grand. Alors après que les musulmans viennent nous dire que la parole de Dieu a été trafiquée, mais par qui elle a été trafiquée? Quand elle a été trafiquée? Donnez-nous des noms et des preuves. Vous ne pouvez pas? Alors, camembert, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Vous voyez que dans l'Église, il y a toujours eu des zinzins. C'était des gens dans l'Église. Comment? Paul leur écrit là, il leur dit, mais comment c'est possible que parmi vous, il y en ait qui disent qu'il n'y a pas de résurrection? Il y a toujours eu des idiots qui traînent leurs guêtres dans les églises et qui empêchent les gens de vivre simplement dans la paix et dans la joie de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut toujours qu'il y ait des... Même dans l'église. C'est infernal ça, mais vivement que ça se termine. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et notre foi aussi. Notre foi, c'est zéro. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Alors, qui choisissez-vous? L'apôtre Paul ou tous ces faux prophètes qui nous disent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité? Moi, j'ai vite vu, hein. J'ai vite vu. Or, il n'a pas fait... il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Inutile ni à vous, ni aux autres. Si vous êtes encore dans vos péchés. Vous voyez, ceux qui disent Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ils sont en train de dire, coucou, nous sommes encore chargés de tous nos péchés. Voilà ce qu'ils sont en train de vous dire. Et moi, j'irai discuter avec des gens comme ça, écoutant leurs arguments pour... Ils veulent me convaincre? Des gens qui sont bourrés de péchés? Non. Non, merci. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. C'est-à-dire que tous ceux qui sont morts sans connaître Jésus-Christ, sont en enfer. C'est ce qu'il est en train de dire. Si Christ n'est pas ressuscité, ils sont tous en enfer. Et si pour cette vie, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Il dit ça parce que c'était des gens dans l'Église qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection. Il dit, s'il n'y a pas de résurrection, Christ n'est pas ressuscité, vous faites quoi dans l'Église? Vous êtes les plus minables, les plus à plaindre de tous les hommes. Vous êtes des déséquilibrés, vous êtes des zinzins. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes quoi? Falcon, comme il disait l'autre. La petite fourmi. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers d'un homme, Adam, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun dans son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a mis tout sous ses pieds, mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toute chose, c'est-à-dire c'est à l'exception de Dieu le Père. Dieu le Père n'est pas soumis au Fils. Ils sont unis, ils sont un. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est-à-dire que Dieu, le Père, est un. Il n'y a pas trois, quatre dieux, il y en a un. C'est Dieu le Père, créateur. Et il a parlé, sa parole c'est Jésus, et Jésus dans la création, c'est Dieu. Une fois que la création sera roulée comme un vieux manteau et jetée, alors Jésus-Christ, la parole de Dieu, remettra tout à son Père, c'est-à-dire que ça sera de nouveau une unité totale et complète, il n'y a pas trois dieux. Ceux qui essaient de faire croire qu'il y a trois dieux, ou que nous croyons en trois dieux, ce sont des menteurs. Nous ne croyons pas en trois dieux, nous croyons en un seul Dieu qui se manifeste de plusieurs manières différentes à travers les temps. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? Chaque jour, il dit, je risque la mort, aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Bon, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, il y a des gens, il faut mieux pas les fréquenter. Revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas. Croire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, c'est le plus grand péché qu'on puisse faire. Même le diable n'a pas osé commettre ce péché. La Bible nous dit que le diable croit, mais qu'il tremble. Parce qu'il connaît, il sait quelle est sa fin. Même le diable n'a pas osé ne pas croire. Faut-il être fou pour contester que Jésus-Christ est ressuscité? Car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte, certains d'entre vous, dans l'Église. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera. C'est une simple graine, ce que tu sèmes. Un grain de blé, peut-être, ou une autre semence. Puis, Dieu lui donne un corps, comme il le veut. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. C'est-à-dire que tu vas mourir, et puis tu vas ressusciter avec un corps, mais différent de ce qui a été semé. Ce qui est semé, c'est juste une graine. On est juste des graines. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Vous voyez, c'est tout ce que je vous ai toujours enseigné. Mais tout ce que je vous ai enseigné, même le baptême pour les morts, Paul n'est pas contre. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, on est des idiots, stupides et inutiles en se faisant baptiser pour les morts. Est-ce que tous se faisaient baptiser pour les morts? Non. Il y en a qui étaient chargés de le faire. C'est pour ça qu'il dit, mais que font ceux qui sont baptisés pour les morts? Mais ceux qui ne se faisaient pas baptiser pour les morts, ça ne veut pas dire qu'ils n'y croyaient pas. C'est qu'ils avaient une autre charge. Ma main a une autre responsabilité que mon pied. Et dans l'église de Jésus-Christ, il y a des gens qui sont consacrés à la prière pour les malades, d'autres qui sont consacrés au baptême pour les morts, d'autres qui sont consacrés à donner de l'argent, d'autres qui sont consacrés à ceci ou à cela. Il y a toutes sortes de fonctions dans le corps de Christ. Mais ce n'est pas parce que Paul lui-même ne se faisait pas baptiser forcément pour les morts que c'est faux. Ils disent, que font ceux qui seront baptisés pour les morts s'il n'y a pas de résurrection? C'est une foi vaine, inutile, stupide. Il n'est pas en train de dire, c'est faux, comme le disent certains apostats d'aujourd'hui, qui se sont fait baptiser pour les morts et qui maintenant renient la chose. Ce sont des apostats. Le corps est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Notre corps est semé méprisable. C'est vrai que quand on est jeune et beau, c'est encore bien. Mais même là, c'est méprisable par rapport à ce que nous aurons comme corps après. Alors quand on parle des vieux, là, c'est même pas la peine. Hein. Habillé, ça passe bien toujours. Mais bon. Il y en a qui rigolent, hein. C'est sûr. Il est semé faible, il est ressuscité plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et Dieu a un corps spirituel. Nous serons semblables à lui. Vous voulez pas le croire? Ah ben tant pis pour vous. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Jésus communique la vie. Nous avions perdu la vie, puisque nous avons péché, nous étions séparés de la vie, séparés de Dieu qui est la vie. Mais Jésus est venu, et il est un esprit qui communique la vie. Si nous la recevons, nous la recevons. Si nous la recevons pas, nous la recevons pas. Vous n'êtes pas obligé de la recevoir. Si vous voulez pas la recevoir, vous la recevez pas. Mais après, venez pas vous étonner que vous allez passer en enfer. Voilà, ce sera comme ça. Mais ce n'est pas le premier homme tiré de la terre. Attendez. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel, c'est Adam. Ce qui est spirituel vient ensuite, Jésus. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière, le second homme, le Seigneur, Jésus, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Ah ! Jésus, je vous rappelle qu'il avait un corps qui pouvait manger, qui pouvait boire, mais qui pouvait traverser les murs aussi. Voilà comme nous serons. Nous ne serons pas un esprit assis sur un nuage. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel, avec un corps spirituel, non pas de chair et de sang, mais de chair et d'os, comme il est écrit. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici ce que je vous dis, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons transformés. Voilà, il vous parle là de ce qu'il est en train de dire dans 1 Thessaloniciens 4,16. Il faut en effet que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel sera revêtu aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Alors, bravo les légalistes. Mais que Dieu soit remercié, lui, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vivant, qui est ressuscité. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, Soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur, et ça on le sait, et puis en plus, ça sera, il y aura des résultats dans l'éternité, parce que nous amassons des trésors dans le ciel. Moi je crois, vous croyez?
Oui.
Moi je crois, parce que je crois dans la résurrection. Vous vous rendez compte que l'apôtre Paul est obligé de faire tout un chapitre pour expliquer ça à des nouillasses qui croyaient dans l'Église, qui ne croyaient pas dans la résurrection. Et puis qui disaient, oui, mais comment ça va se passer? Comment est-ce que... Toujours les imbéciles. C'est lassant. C'est lassant, c'est fatigant. Enfin, c'est comme ça. Paul écrivait à des chrétiens qui ne croyaient pas à la résurrection. Quelle drôle de sorte de chrétien. Vous en avez aujourd'hui des encore plus comiques, hein. Il y en a des plus comiques encore. Vous voyez, il y a toujours eu dans l'Église des gens qui n'avaient rien à y faire, en fait. Qui n'avaient rien à y faire. Paul essaye de les raisonner par ce chapitre. Est-ce qu'il y est arrivé? Mystère. Par contre, sa démonstration nous est utile. Nous, nous savons que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité et nos prédications ne sont pas vaines. Elle porte du fruit. Certains croient au Christ Jésus, comme les musulmans, mais leur foi à eux, elle est vaine. Elle existe, mais elle est vaine. Car ils ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité. Ils ne le croient pas parce qu'ils croient autre chose. C'est pas plus compliqué. Mes frères et sœurs, nous ne croyons pas autre chose que ce que les apôtres nous ont transmis. Et nous n'écoutons pas ceux qui nous disent des choses contraires à ce que les apôtres nous ont enseigné. Nous rejetons toute autre croyance parce qu'elles sont vaines et on n'a pas de temps à perdre avec ça et à faire des débats sur YouTube pour ces choses-là. Désolé. Les apôtres sont de vrais témoins. Ils ont vu Jésus-Christ ressuscité, plus de 500 personnes en même temps. Nous, on ne l'a pas vu, mais Jésus a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». Nous sommes de ceux-là. Nous n'avons pas vu, mais nous avons cru. Parce que Dieu nous l'a révélé. Nous ne croyons pas ceux qui n'ont rien vu. Et qui prétendent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils n'ont rien vu. Ils ne sont pas heureux, ils sont malheureux ceux-là. Ils n'ont rien vu, ils ne croient pas, ils sont malheureux. Ceux qui prétendent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité sont des faux prophètes. Ils prêchent contre Dieu. 1 Corinthiens 15:15, on vient de le lire. Prêcher que Christ n'est pas ressuscité, c'est prêcher contre Dieu. Ils sont en grand danger. Mais ça les regarde, ça ne nous regarde pas. Notre rôle, c'est juste de prêcher, c'est de dire, de confesser, de témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Eux, ils décident de nous croire ou pas, mais c'est à eux. Ça ne nous regarde pas. S'ils ne nous croient pas, leur foi, c'est ce que Paul dit, est inutile aux yeux de Dieu. Corinthiens 15, verset 17. Elle est inutile. Donc, ils sont encore dans leur péché. 1 Corinthiens 15, 17. Où est-ce qu'ils mettent leur péché les Juifs? Où est-ce qu'ils mettent leur péché les musulmans? En tuant un cochon dans une baignoire? En disant « c'est le jour du grand pardon » Où est-ce qu'ils ont été trouvés ça? En tout cas, ce n'est pas dans les Écritures. Dans les Écritures, c'est écrit que Jésus-Christ, le Messie, doit venir souffrant, qu'il doit mourir pour nos péchés, et qu'il ressuscitera le troisième jour, que celui qui l'a trahi, il lui a même donné la somme qu'il recevra pour trahir. Tout ça, c'est dans les Écritures. Ils n'y croient pas? Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire qu'ils sont des prêtres? Qu'est-ce qu'ils ont à dire qu'ils sont des théologiens ou de je ne sais quoi? Vous savez, ce qui est marrant, c'est que c'est Dieu qui les a voilés. Pourquoi? Pour que nous puissions venir. Pour que nous puissions entrer. Donc, les Juifs sont moins à plaindre que les musulmans. À cause de ça. Mais vais-je écouter l'enseignement de quelqu'un qui est encore dans ses péchés? Non. Non, j'écouterai pas. J'écouterai pas ses arguments. Il peut avoir une apparence de sainteté plus grande que la mienne. Il peut avoir une apparence de sagesse et avoir une sagesse qui semble plus grande que la mienne. Il peut avoir tout ce qui ressemble à la piété. S'il ne croit pas que Jésus-Christ est ressuscité, sa foi est vaine, elle est inutile et il est encore dans ses péchés. Je le regarde et en moi-même je dis voilà, il est encore dans ses péchés. Est-ce que je juge? Farpètement je juge. Je juge d'après les Écritures. Je dis, c'est pas moi qui vous juge, c'est les Écritures. Et je ne juge pas non plus, c'est les Écritures. Non, les Écritures ont été trafiquées. Prouvez-le. Vous ne pouvez pas le prouver. Par contre, chaque fois qu'on croit une chose qui est dans les Écritures, on voit que ça s'accomplit, on voit que ça marche. Paul est clair, cela signifie que si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, ta foi n'est pas vaine. Tu ne perds pas ton temps en cultivant ta foi. Tu ne perds pas ton temps en priant. Tu ne perds pas ton temps en lisant les Écritures. Tu ne perds pas ton temps en allant aux réunions pour écouter la prédication. Ta foi, elle est utile à ta propre vie et elle est aussi utile à ceux qui te croient. Ta foi est utile à tous. En tout cas, à ceux qui te croient. Et tu n'es plus dans tes péchés parce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité après être décédé sur la croix. Après avoir versé son sang qui te purifie de tout péché. Je n'ai plus de péché, non pas parce que je suis parfait, mais parce que Jésus-Christ m'a lavé et m'a purifié par son sang. Si ça n'est pas vrai, je suis le plus misérable des hommes, je me trompe, j'ai été trompé, et je suis et je prêche contre Dieu. Qui prêche contre Dieu? Ceux qui ont vu Jésus-Christ ressuscité, ou ce bonhomme pédophile qui est venu 600 ans après pour nous dire le contraire? Qui est encore dans son péché? Et puis tes ancêtres, tous tes ancêtres, ton père, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, ton oncle, ta tante, tous ces gens-là sont en enfer. C'est ce qui est écrit, c'est selon les Écritures, et elles ne sont pas trafiquées. L'enfer n'est pas vide, ne sera pas vide. Il y aura des gens dedans. Qui? Tous ceux qui n'ont pas cru en le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Parce qu'il est venu pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, 18. Par contre, si tes ancêtres sont morts, donc sans croire à la résurrection de Jésus, comme je te dis, ils sont perdus. Ils sont dans le séjour des morts, dans un lieu de tourment, parce qu'ils ont écouté des gens qui disent n'importe quoi. Voilà. Je prêche la vérité que Paul prêchait. Et je ne sortirai pas de là. Non. Et si tu crois en Jésus-Christ ressuscité, uniquement pour en tirer bénéfice, tu es le plus minable des humains, parce qu'il y a des gens comme ça. Tu es plus à plaindre que n'importe quel autre homme. Ou n'importe quelle autre femme. Il y a des tas de gens comme ça, et j'en connais. Vous voulez que je vous donne des noms? Je ne donnerai pas parce que je suis poli. Puis j'ai aussi un petit peu la trouille parce que c'est des gens très méchants, très mauvais. Des gens qui prêchent uniquement pour pouvoir dominer sur les autres et leur faire peur et leur prendre leur pognon. Et les impressionner pour pouvoir être suivis par eux. Tous ces prédicateurs qui prêchent Jésus pour se faire du pognon, pour avoir la gloire, avoir un micro en main et brailler comme des malades devant des foules qui se roulent par terre. Faux prophètes et compagnie. Voilà ce que Paul dit. Or, Jésus-Christ est ressuscité et nous ressusciterons lors de son retour, verset 23. Après quoi sera la fin. Mais avant cela, c'est ce que Paul dit, Jésus-Christ va anéantir tous ses ennemis. Le doux Jésus avec les pommettes roses que vous voyez sur les images en train de frapper aux portes, il va anéantir tous ses ennemis. Le doux Jésus. Vous vous trompez là en pensant que Jésus est amour et gentil. C'est le même Dieu que dans l'Ancien Testament. L'autre jour, quelqu'un me disait, mais quelle est la différence entre la foi des musulmans et la foi des chrétiens? Quand on regarde Dieu, comment il était avec les Philistins. Les Philistins sont des êtres contre nature. Sont les fils du diable. Et voilà pourquoi il devait être détruit. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et Jésus n'a pas changé. Tous ceux qui renient Jésus-Christ ressuscité, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Dieu les détruira. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il y a juste un temps de grâce, pendant 2000 ans à peu près, un peu plus, pour que nous puissions faire la paix avec Dieu. Mais Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Et il les détruira. Qui sont ses ennemis qu'il va détruire? Un, ceux qui ne croient pas en sa résurrection et qui empoisonnent le cœur du peuple avec cette fausse croyance. Deux, ceux qui se servent du nom de Jésus-Christ pour dominer sur le peuple, les Nicolaïtes. Jésus, le Dieu d'amour, dit « Je hais l'œuvre des Nicolaïtes ». Nicolaïtes, ça veut dire « dominer le peuple ». C'est du grec. Trois, les satanistes. Qui sont-ils, les satanistes? Ceux qui nient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui adorent la créature, c'est-à-dire un bonhomme, un prophète, à la place d'adorer Dieu, d'écouter Dieu. Les satanistes, vous savez, ce n'est pas forcément des gens qui adorent Satan en portant un chapeau pointu et en faisant des sacrifices. Non, 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 non. Il y a des milliards de satanistes qui le sont sans le savoir. Parce que le fait de ne pas avoir Jésus-Christ ressuscité comme maître les met immédiatement sous l'autorité d'un autre maître, Satan, le père du mensonge. Qui sont les ennemis de Jésus-Christ? Quatrièmement, ceux qui ont connu la vérité et qui ont apostasié. Dieu les anéantira. Il vaudrait mieux pour eux qu'ils aient jamais entendu. Ceux qui ont apostasié et qui ne se repentent pas de leur apostasie sont déjà ennemis de Jésus-Christ. Malgré leur foi est vaine. Cinquièmement, les ennemis de Jésus-Christ sont les autorités, les dominations et les puissances démoniaques et tous ceux qui les servent pour pouvoir dominer sur le peuple, il va les anéantir. Ceux que vous regardez à la télévision là maintenant, qui vous disent « votez pour moi là ». Jésus-Christ ressuscité est le sauveur de ceux qui l'honorent. Il condamnera les autres. Pardonnez-moi de vous froisser, mais je vous dois la vérité. Ah, on comprend pourquoi ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent rien savoir au sujet de Jésus-Christ ressuscité. Hein. C'est très gênant. Si Jésus-Christ est ressuscité, il va venir pour faire quoi? Pour détruire les ennemis. Ses ennemis. Tous ces gens-là, ils veulent dominer sur les autres par la puissance de l'argent. Vous ne me croyez pas, mais vous ne regardez jamais la télé? Vous ne lisez pas les journaux? Tous ces gens, ils veulent dominer sur les autres par la puissance de la peur. Ils veulent dominer sur les autres par la puissance de la religion, par la puissance de la menace, par la puissance politique. Voilà. Eh bien, Jésus-Christ reviendra, il les anéantira. Et c'est lui qui prendra le contrôle et c'est lui qui régnera. Un règne de 1000 ans. Et après, il relâchera Satan pour un peu de temps et ça sera terminé. Il prend le monde, l'univers et tout, il roule ça comme un vieux manteau et il le jette. Et ça sera fini. Il y aura un nouveau monde, tant mieux, débarrassé de tout ça, de toutes ces racailles. Ah, mais Michel, ça n'a pas d'amour dans ta prédication. Je n'ai jamais dit que je venais vous prêcher autre chose que l'amour. Je vous prêche l'amour, c'est par amour que je dis ces choses-là. Si je ne vous dis pas la vérité, je manque d'amour. Mais oui, un père qui dit à son fils, couche-toi! Oui, il manque d'amour, il pourrait le dire plus gentiment. Ça dépend dans quelles circonstances. Si le gamin est en train de courir sur une voie ferrée et puis que le train arrive et que le père crie « couche-toi !» Le gamin, il obéit, son père le dit par amour, afin que le train puisse passer dessus sans l'écraser, parce que le gamin est en danger. Même si le père gueule, même si le père crie, c'est par amour. Je crie par amour. Et Paul le dit, il dit tout ça, et il dit aussi « si Christ n'est pas ressuscité, le fait donc... » Ceux qui se font baptiser pour les morts, ben c'est des tarés. Si Christ n'est pas ressuscité, se faire baptiser pour les morts, c'est parfaitement inutile, c'est une perte de temps, c'est vain, et c'est une foi qui est contre Dieu. Par extension, ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité ne se font pas baptiser pour leur mort parce qu'ils croient que c'est vain, parce qu'ils croient que c'est inutile. En cela, ils ont une foi qui s'élève contre Dieu. Parce qu'ils disent c'est inutile, c'est vain. C'est une perte de temps. Certains croient que Jésus-Christ est ressuscité, mais ils préfèrent aller cacher des œufs de Pâques et bouffer des lapins au chocolat plutôt que de faire ce que Paul dit de faire le jour de Pâques. Et si Christ n'est pas ressuscité, pourquoi est-ce que nous devrions affronter les dangers? C'est ce que Paul continue à dire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais encore aller prêcher en Afrique, où j'ai déjà vécu deux coups d'État? Vous n'avez jamais vécu un coup d'État en Afrique? Pourquoi est-ce que je retourne? Je suis idiot. Si Christ n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'à les laisser dans leur sorcellerie et puis leur religion idiote et cruelle. Voilà, il n'y a qu'à les laisser. C'est idiot. Pourquoi est-ce que je vais risquer ma vie là-bas? Pourquoi? Je suis tellement mieux à me dorer la pilule à côté de, et dans ma piscine. Mes frères et sœurs, si Christ n'est pas ressuscité, mangeons, buvons, puisque demain nous mourrons. Et puis en attendant, si Christ n'est pas ressuscité, massacrons aussi ceux qui ne croient pas comme nous, au nom de Dieu. Si on veut pousser les choses jusqu'au bout. Allons-y gaiement. Croyons n'importe quoi, croyons n'importe qui, n'importe quel prophète, n'importe quel assassin, n'importe quel pédophile, croyons-le. Allons nous faire exploser dans les lieux publics, au nom de Dieu. Ah, c'est bien. Croyons n'importe quel prophète, voleur de vision, imposteur, croyons-les. Fréquentons ces gens-là. L'apôtre Paul dit au verset 33 qu'il ne faut pas fréquenter ces gens-là parce que ça corrompt nos mœurs. Alors là, foutons le feu à tout ce qui nous gêne. Mais ne soyons pas tièdes, soyons bouillants. Si on ne croit vraiment pas que Christ est ressuscité, soyons bouillants. Détruisons le travail accompli par les vrais serviteurs de Dieu, puis installons-nous bien dans ce qu'ils ont construit. Volons-leur tout. Faisons-le avec foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec une foi, oui, mais vaine, inutile. Vous voyez la folie de ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité, de ceux qui n'ont aucune crainte de Dieu, de ceux qui n'ont aucun respect pour les serviteurs de Dieu qui les ont conduits à Jésus-Christ, sont des apostats. Ils disent que c'est nous les fous. Frères et sœurs, Jésus-Christ est ressuscité. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs, de leur donner d'être forts et de résister à toute tentation de tiédeur au nom de Jésus mon Dieu. Amen. 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 Amen.